On vous le mentionne depuis le début de l'émission, on a de la belle visite en studio ce matin. Le député fédéral de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, est en ville avec nous. Ah oui, je vais avec tout, M. Duclos. Je vais avec les titres, la formalité. Je vous accueille comme ça en studio. Vous êtes là en personne. M. Duclos, comment ça va?
Ouais, honorable, ça me fait penser à une statue, là.
Ouais.
Mais très heureux d'être en personne avec vous, Reg, Max et Jeff, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, là, ça m'a vraiment traumatisé, puis pas mal d'autres personnes s'est traumatisé, parce que c'était le jour où vous aviez eu une attaque de corneille ou de corbeau,
oui,
je ne sais pas laquelle des deux.
Là. Et là, vous le voyez de vos yeux, ça a passé devant la fenêtre ici de nos studios. Enfin, ouais, je me souviens de ce moment-là.
Ouais. C'est traumatisant de vous entendre. Là j'ai voulu venir vous voir en personne pour voir si c'est bien, si la santé était bonne avec l'attaque que vous avez subie.
Vous voyez que la bonne humeur règne dans le studio ici. Là. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est le sourire. Puis vous l'aviez bien dit avant qu'on rentre en onde, quand on fait ce qu'on aime dans la vie, c'est ça qui est important. Peu importe ce qu'on fait.
Oui, puis vous avez.
C'est le cas pour vous.
Oui, vous avez du plaisir à le faire, c'est sûr. On vous entend, puis là, je vous vois en plus. Oui, puis ce qu'on disait avant de parler devant le micro, là, on disait que la seule façon de faire une bonne job dans la vie, c'est d'aimer sa job.
Ouais.
Peu importe la job qu'on fait, quand on l'aime, on a plus de chances de bien la faire.
Monsieur Duclos, vous l'aimez, votre job?
Oui, une belle job, vraiment une grande chance. Moi, j'ai une circonscription extraordinaire, circonscription de Québec. Là. Rencontre des gens intéressants, puis le fun à tout le monde, à tous les jours, puis je suis bien content de pouvoir le faire.
Monsieur Duclos, commençons avec l'extension du régime dentaire pour les aînés au Canada, qui est une excellente nouvelle. Parlez-nous de ce projet-là.
Bien, premièrement, c'est important parce que il y a plein de monde qui nous écoute présentement, à peu près le tiers au pays, plus parmi les gens de la classe moyenne puis à faible revenu qui ne vont pas chez le dentiste ou consulter un hygiéniste parce qu'ils n'ont juste pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas l'assurance privée non plus que les gens, que d'autres personnes peuvent avoir. Fait que
c'est vrai, c'est pas donné.
Ça coûte des sous, puis on sait. Fait que souvent, on se sent coupable quand on n'a pas une assurance privée et qu'on n'a pas les moyens d'y aller. On sait qu'on devrait y aller parce que ça fait mal, puis ça nous empêche de bien manger. Puis ça peut mener, comme on sait, à des problèmes de diabète, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes gastro-intestinaux.
J'ajouterais l'estime de soi aussi.
L'estime de soi, c'est tout à fait. Fait que on sait aussi que quand on n'y va pas, bien, ça va mener à des problèmes plus coûteux et plus douloureux éventuellement, mais on n'a pas le choix, on n'y va pas. Fait que c'est beaucoup de gens qui nous écoutent présentement qui vont devenir ou qui sont déjà admissibles à ce nouveau régime canadien de soins dentaires. C'est à peu près 9 millions de Canadiens. Fait que dans la grande région de Québec, c'est à peu près 300 000 Canadiens qui vont être admissibles d'ici 2025. Puis depuis décembre, c'est beaucoup d'aînés qui le sont déjà.
Ouais.
Les aînés qui nous écoutent de 70 ans et plus, dans la plupart des cas, vont déjà avoir reçu une lettre de Service Canada qui leur dit, bien, vous êtes probablement admissibles, mais pour être sûr, voici un numéro de téléphone puis un code à utiliser. Puis avec ce code-là, vous allez pouvoir confirmer qu'effectivement, vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, vous allez recevoir une lettre qui va confirmer votre admissibilité. Puis plus tard dans l'année, à partir du mois de mai, du mois de juin, vous allez pouvoir aller à la clinique dentaire ou chez l'hygiéniste pour recevoir un examen, un rayon X, un détartrage. Pour les enfants, un scellant. Les scellants, c'est comme des petites colles là, qu'on met sur les trous pour empêcher que ça carie. Puis si vous avez besoin d'une obturation, d'un plombage, bien, vous allez pouvoir l'avoir aussi. Alors, c'est pas tout le monde qui est admissible parce que c'est ciblé sur la classe moyenne et les plus faibles revenus. Ceux qui ont déjà une assurance privée ne sont pas admissibles. Mais ça va aider plusieurs dizaines de milliers de gens dans la grande région de Québec.
Puis pour les aînés, ça va aider d'autant plus pour tout ce qui est prothèse dentaire. Là. Puis quand... Red, je parlais tout à l'heure d'estime de soi, bien, c'est un peu ça. T'sais, ma prothèse est trop vieille, elle fait plus. Je me retrouve avec une bouche pas dedans. On perd de l'estime de soi, donc ça va aider à ce niveau-là, le régime.
Puis c'est tellement vrai ce que vous dites, parce que quand on rencontre des aînés, souvent, ça fait des années qu'ils n'ont pas changé leur prothèse. Les prothèses, bien, ça finit par user, ça brise. Puis on n'y va pas parce qu'on sait que ça va coûter beaucoup d'argent. Fait que là, ça finit, comme vous dites, par jouer sur l'estime, la confiance de soi. On sait qu'on n'est pas confortable. En plus, ça nous empêche de bien mastiquer. On digère mal.
On s'isole socialement.
Exactement. Donc, c'est du stress que les gens vivent. Puis souvent, avec des petits revenus, les aînés ont rarement accès à une assurance privée de l'employeur parce que la plupart du temps, ils ne travaillent pas. Puis leurs revenus, bien, ils sont fixes. Hein, ils n'augmentent plus une fois que tu es à la retraite. Fait que c'est pas facile. Puis c'est beaucoup d'aînés seuls qui sont présentement en train de devenir admissibles. Ils reçoivent une lettre. C'est généralement très simple. En quelques secondes, ils réussissent à se brancher au système. Ils ont une confirmation, une lettre ensuite qui va leur confirmer qu'ils sont admissibles. Plus tard, durant l'année, vers le mois de mai et le mois de juin, ils vont recevoir ce qu'on appelle une trousse de bienvenue puis il va leur expliquer c'est quoi les services auxquels ils avaient droit. Ils vont pouvoir se trouver aussi quelles sont les cliniques dentaires qui se sont inscrites, parce qu'ils ne sont pas obligés, les dentistes, de s'inscrire. Mais on pense que la plupart d'entre eux vont vouloir s'inscrire parce que c'est bon pour leur clientèle. Puis c'est aussi parce qu'ils savent, les dentistes, les hygiénistes, ils en reçoivent souvent des patients. Là. Ouais. Ben, au contraire, ils n'en reçoivent pas parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui devraient venir les voir puis qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour les soins dentaires.
On en parle puis on voit à quel point ça, c'est important. Pourquoi on est en 2024 puis ça se fait là, là? Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Pourquoi ça n'a pas pu se faire avant?
Ça, c'est un gros trou. Lorsqu'on a créé l'assurance médicament, l'assurance santé, l'assurance maladie dans les années 60, à l'époque, il y avait comme objectif d'inclure les soins dentaires dans l'assurance santé, l'assurance maladie, mais ça n'a pas été fait parce que les dentistes n'étaient pas aussi prêts que les médecins embarqués dans le régime. Donc, on a mis ça de côté. Fait que là, on le fait effectivement presque 50 ans plus tard. Mais heureusement, ça s'est fait, mais c'est très ciblé, là. Ceux qui ont une assurance privée, ceux qui gagnent assez de revenus pour se les payer, mais ne sont pas admissibles. C'est les autres qui sont privilégiés.
Pourquoi on entend, M. Duclos, que, puis on pourrait parler de quelques chicanes. Je sais que M. Trudeau va rencontrer M. Legault le 15 mars prochain. Il y a quelques chicanes, on va dire, ou de, entre le provincial et le fédéral. Pourquoi, entre autres, le Québec voudrait quitter le régime dentaire canadien? Pourquoi on parle de ça?
Bien, au contraire, je pense que c'est bon pour le gouvernement du Québec parce que oui, il y a une petite couverture du gouvernement du Québec présentement pour l'assurance dentaire. Ce sont les enfants de 9 ans et moins qui reçoivent certains soins. Ce n'est pas tous les soins. Les soins préventifs comme un détartrage, un scellant sur les dents, du fluor, ça, ce n'est pas couvert par le régime pour les enfants de 9 ans et moins. Mais c'est des soins préventifs qui font la différence. Hein. En santé, la base, c'est la prévention. Mm-hmm. Hein. On veut éviter que les gens aient besoin de soins dentaires ou de soins d'assurance maladie parce que ça coûte cher quand on a besoin. Fait qu'on, la prévention, c'est le début. Fait que c'est pour ça que même pour les enfants de 9 ans et moins qui vont être couverts par le nouveau régime, c'est bon pour le gouvernement du Québec parce que ça va réduire le besoin de plombage puis d'extraction. C'est vrai aussi parce que beaucoup de ces enfants-là, malheureusement, se retrouvent dans des conditions dentaires de mauvaise qualité. Plusieurs se retrouvent à l'hôpital, subissent des chirurgies sous anesthésie générale. En fait, la raison principale pour laquelle les enfants se retrouvent à l'hôpital puis doivent être, avoir une chirurgie sous anesthésie, c'est des problèmes dentaires qui auraient pu être prévenus d'avance. Ça évite aux gens de se retrouver à l'urgence, mais dans les hôpitaux. Ça étend la couverture dentaire à zéro coût pour le gouvernement du Québec, parce que ce qui est couvert déjà, le gouvernement du Québec peut le maintenir, mais on ajoute à ça, puis en plus, on ajoute évidemment beaucoup d'autres tranches d'âge, les aînés, puis les familles, la classe moyenne.
Ça me semble un plan parfait.
Oui, mais la santé reste provinciale, puis c'est ça qui fait jaser en ce moment. Il y en a qui disent pourquoi là, le fédéral vient s'immiscer dans la santé alors que c'est provincial. Il y en a déjà assez de chicanes provinciales fédérales.
Oui, mais on ne veut pas que ça se trouve, hein. ça se transforme en chicane. C'est bon pour tout le monde. C'est, comme je dis, c'est bon pour le gouvernement du Québec aussi parce que à zéro coût pour le gouvernement, la couverture est étendue. Ça évite aux gens d'être malades, de se retrouver à l'hôpital où on sait que c'est déjà engorgé.
Ouais.
Fait qu'on veut transformer ça, puis on veut regarder ça comme étant une nouvelle positive pour tout le monde, puis éviter les chicanes.
Mais pourquoi le Québec en veut pas d'abord, si c'est si bon que ça?
Bien, je voudrais leur demander. C'est sûr que ça n'empêche pas le gouvernement du Québec d'en faire plus s'il le veut. Mm-hmm. Si le Québec veut investir davantage dans les soins dentaires, il peut le faire. Il y aura toujours des besoins additionnels à couvrir.
Je vous lance également sur un autre débat avec le Québec, l'immigration. Pas le choix d'en parler. À l'heure actuelle, on sait que le 15 mars prochain, il y aura une rencontre entre François Legault et Justin Trudeau à cet effet-là. On règle ça comment, le dossier de l'immigration entre Québec et le Canada?
Bon, sur la question des regroupements familiaux, c'est une question très sensible.
Oui.
À nouveau, c'est de la politique, là, puis ça peut devenir négatif facilement. T'sais, la politique négative, c'est très facile à faire, là. Ça ne demande pas beaucoup de talent. mais cet enjeu-là est très sensible parce qu'on parle de personnes là, qui sont ici au Québec ou mm-hmm. à Québec, donc, ils sont déjà là, ils ont une maison, un appartement, ils ont un job, ils parlent français, puis ils attendent très longtemps avant qu'un enfant, un conjoint vienne les rejoindre.
Ouais, jusqu'à 3-4 ans là, qu'on apprenait.
Ailleurs au Canada, c'est un an en moyenne. Ici au Québec, c'est 3-4 ans. C'est ça, ces gens-là, là, c'est très dur. Là. Puis souvent, ils sont tentés de quitter leur travail, de quitter leur milieu de vie, quitter les écoles pour leurs enfants, puis d'aller habiter ailleurs au pays où ça prend trois fois moins de temps. Fait que c'est, puis, en plus, puis s'ils restent ici, bien c'est quand même 3-4 ans de stress additionnel. Ouais. Là, on peut facilement imaginer c'est quoi hein, vivre sans un conjoint ou sans un enfant.
Selon vous, qu'est-ce qui explique le délai plus long au Québec dans le reste du Canada?
Bien, c'est parce que le gouvernement du Québec sélectionne les immigrants. Donc, le gouvernement du Québec est d'accord. Il veut les faire venir, mais c'est leur quota qui est trop faible. Donc, il dit, okay. Bien oui, faites-les venir, mais faites-en pas plus venir qu'un certain nombre.
Ouais.
Donc, c'est un peu contre-productif puis contre-intuitif. C'est que tu dis, oui, on les accepte, on veut les faire venir, mais ne les faites pas venir parce qu'on a un quota qui est trop faible.
Dans l'argument du gouvernement du Québec, il y a beaucoup « Ouais, mais là, ça me coûte en logement, j'ai pas de place dans les hôpitaux, j'ai pas de place en éducation, tout ça. » Vous répondez quoi à cet argumentaire-là?
Bien, pour les regroupements familiaux, les gens sont déjà ici. Le conjoint est déjà là, l'enfant, bien, des fois, est déjà là, puis attend sa mère qui est à l'étranger, puis qui veut venir rejoindre le père pour vivre avec la famille. Fait qu'ils ont souvent déjà un logement, ils ont un travail, donc c'est pas comme s'ils attendaient à rien faire chez eux. Fait que c'est difficile à imaginer pourquoi c'est mauvais de réunir la famille, étant donné que le gouvernement du Québec a déjà dit oui, hein, ils ont accordé leur certificat de sélection du Québec. C'est juste que les nombres ne marchent pas, là.
Je ne voudrais pas nécessairement, M. Duclos, mettre des immigrants dans différentes catégories comme ça, mais pour le gouvernement fédéral, qu'est-ce qui est la priorité côté immigration? L'immigrant économique ou rassemblement familial? Y a-t-il une priorité entre les deux?
Bien, en général, notre système d'immigration est un système d'immigration économique. Les gens sont sélectionnés pour des raisons économiques. C'est pour ça que ça fonctionne très bien par rapport à d'autres pays où ça fonctionne moins bien. Donc, à Québec, ça fonctionne particulièrement bien. On sait là, que dans les usines, dans les hôpitaux, les écoles, les CPE, les résidences pour aînés, les centres de recherche, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Puis ça fait en sorte qu'on crée plus d'emplois. C'est bon pour les entrepreneurs. Puis c'est bon aussi pour les autres travailleurs parce que si une entreprise a le choix entre déménager ailleurs parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs ou de rester au Québec et à Québec puis avoir plus de travailleurs puis mieux payer tout le monde, bien sait qu'est-ce qui est le mieux de faire. Donc, pour ça, l'immigration économique fonctionne bien. Mais au Québec et à Québec, on a aussi des responsabilités en matière d'accueil de certains réfugiés, des demandeurs d'asile.
Oui, demandeurs d'asile. Bien, justement, il y a 52 % des demandeurs qui se retrouvent au Québec, puis c'est 23 % de la population canadienne, le Québec. Est-ce qu'il y a un déséquilibre là? J'ai tendance à penser comme le gouverneur provincial, moi.
Bien, c'est ça. Il y a donc une guerre de chiffres. Il y en a 52 % qui arrivent, mais il y en a apparemment la moitié qui partent rapidement ailleurs au Canada. Fait que c'est pas juste ceux qui arrivent, c'est ceux qui restent qu'il faut compter. Mais là, les chiffres, là, les gens sont pas toujours, c'est pas toujours emballant d'en parler, là. Mais c'est vrai. C'est qu'il y a un plus grand nombre qui arrivent que la part de la population québécoise. Mais beaucoup de ceux-là quittent en Ontario, fait qu'à la fin, il en reste moins. Mais peu importe combien il en reste, je pense qu'on convient tous que c'est important d'en prendre soin. Ouais. La plupart d'entre eux s'intègrent rapidement. Les enfants apprennent le français très facilement. On voit, on a eu une histoire là, récemment en Beauce là, où ça va super bien. Les familles s'intègrent rapidement, trouvent une job, puis c'est généralement très positif.
Monsieur Duclos, on voit dans les derniers sondages que ça va bien pour les conservateurs, moins bien pour les libéraux au niveau fédéral. Qu'est-ce qu'on fait chez les libéraux? Qu'est-ce qu'on veut faire pour renverser cette tendance-là?
Bien, il y a deux choses. La première, c'est qu'évidemment, on a beaucoup de travail à faire. Là, on en parle un petit peu ce matin et qu'on n'est pas... Ou, en tout cas, on n'est pas à la veille des élections, d'après ce que je sais. Là. On n'est pas non plus pressé d'y arriver. On a encore au moins un an et demi là, avant d'arriver aux élections. Donc, la première chose, c'est de faire le travail que les Canadiens nous ont demandé de faire lors des dernières élections. Puis la deuxième chose, c'est qu'il va arriver effectivement un moment où, comme citoyen, on va devoir se prononcer sur quel genre de gouvernement on veut pour les prochaines années. Moi, honnêtement, j'ai pas hâte de le faire parce que j'ai beaucoup de travail à faire pour l'instant, mais quand ça va arriver, j'aurai envie de le faire et demander aux gens quel genre de politique on veut faire à Québec et ailleurs au pays. Il y a un autre parti qui a une politique plus d'insultes, négatives, divisives. Je dis pas ça pour les dénigrer, mais je pense que quand les gens comprennent là, que quand on insulte les municipalités et tout le monde, bien, on ne se fait pas des amis, puis c'est difficile ensuite de collaborer avec ces gens-là. Avec cette façon de faire de la politique, moi, je pense qu'à Québec, il y a une autre façon de faire de la politique que les gens vont préférer aux prochaines élections.
Justin Trudeau est-il encore l'homme de la situation pour les libéraux?
Moi, je suis convaincu que oui. Je dirais qu'être premier ministre d'un pays comme le Canada, c'est pas facile. Je vous le souhaite pas à aucun de vous trois. C'est un grand pays. Rarement, les gens sont d'accord sur tout. Se promène dans une partie d'un pays, c'est une opinion. Une autre partie, c'est une autre opinion. Ça se tape dessus allègrement. Donc, l'objectif et la difficulté, c'est de rassembler les gens. C'est pas facile. Moi, je trouve que mon patron le fait très bien. Mais à la fin, c'est un pays, comme je disais, qui est à la fois extraordinaire, mais aussi difficile à gouverner.
Gros budget qui s'en vient le 16 avril prochain pour le gouvernement. Puis on a reçu quelques textos. Est-ce que les gens doivent s'attendre à des hausses d'impôts parce qu'on fait beaucoup de nouveaux programmes? T'sais, on en est où? Il y a des gens qui sont nerveux là-dessus, on le sait, là, avec l'inflation qui touche les gens.
Bien, deux choses. Un, le Canada, est parmi tous les pays comparables, c'est celui qui a le meilleur portrait, le meilleur dossier en matière fiscale. C'est la meilleure dette par rapport au PIB, les meilleurs déficits par rapport au PIB. Donc, peu importe avec qui on se compare, là, sauf de très petits pays comme la Finlande ou la Suède peut-être, mais les pays du G7 en particulier, on est très, très bien classés. La deuxième chose, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on est en si forte croissance au Canada depuis la pandémie, c'est que le gouvernement canadien a été là pour relancer après l'économie. Ça a coûté des sous durant la pandémie de protéger la vie de centaines de milliers de gens, mais ça explique pourquoi on a autant de croissance et de création d'emplois depuis la fin de la pandémie. Et bon, on peut, évidemment, l'inflation continue à baisser, mais l'inflation, c'est un phénomène mondial. C'est la crise en Ukraine, c'est les désastres climatiques, c'est les tensions avec la Chine, c'est ce qui se passe au sud de la frontière. Fait qu'on peut se consoler en regardant ce qui se passe aussi ailleurs sur la planète. Moi, je continue à croire que le Canada est le meilleur pays sur la planète, puis on veut continuer à le rendre encore mieux. Mais ceci étant dit, il faut continuer à investir tout en étant responsable d'un point de vue fiscal.
Donc, est-ce qu'il va y avoir des hausses d'impôts?
Nous, on n'a pas augmenté les impôts. Au contraire, on a diminué depuis 2015. La première chose qu'on a faite, en fait, c'est de réduire les impôts pour la classe moyenne puis les augmenter pour le 1 %. Le Parti conservateur a voté contre. Et depuis, ben, on n'arrête pas de réduire les impôts. Évidemment, on le fait de façon responsable. Quand on réduit les impôts, ça veut dire qu'il nous reste moins de marge de manœuvre pour aider la classe moyenne puis les autres.
Monsieur Duclos, il y a plus de chances que je devienne que je mette la main sur la carte unique de Connor Bedard que je devienne premier ministre du Canada. Ça, c'est sûr et
certain. Ah ouais, Red, tu me surprends, là.
Oui, je sais pas. Non, mais là, je prends les conseils de M. Duclos. Il souhaiterait pas que je sois premier ministre.
Ben, vous auriez au moins un électeur, là, Jeff.
Ouais, c'est vrai, Krim, Red. Tu pars déjà avec un vote dans tout le Canada. Ça va bien, ta campagne.
C'est parti.
T'es presque aussi performant que Nikki Haley aux États-Unis.
Presque. Jean-Yves Duclos est député fédéral de Québec. M. Duclos, merci infiniment d'être passé nous voir en studio.
Merci à vous trois, et bonne journée à tout le monde.
Hey, merci, bonne journée. On s'arrête 2-3 minutes.